Ce film a été tourné au cours d'une mission scientifique en République du Tchad. Point de départ, Fort Lamy, kilomètre zéro. Puis, Abéché, kilomètre 800. Enfin, Fada, kilomètre 1400. Là, il faudra abandonner les véhicules et prendre des chameaux pour effectuer le périple prévu à l'intérieur du massif de l'Enedi, but de notre mission. Fort Lamy, capitale du Tchad, située le long du Chari, est un important centre commercial où le marché très animé donne un aperçu des principales activités du pays. Les ménagères des environs s'y donnent rendez-vous. Le mil est l'aliment énergétique par excellence. Mais on se refuse à acheter sans marchander ni sans mesurer à plusieurs reprises la ration afin d'essayer de gagner quelques grammes. Cette belle natte est bien tentante, ma foi. Les services de voirie de la ville se doivent, le marché fini, de rendre la place propre et nette. Une équipe de cantonniers s'emploie activement à ramasser le moindre grain de poussière sous l'œil désabusé des vautours qui se demandent ce qui va leur rester après un nettoyage aussi minutieux. Pour gagner Abéché, aux confins sud du Sahara, nous avons 850 km à franchir et des véhicules tout-terrain doivent être utilisés. Dès le 1er juillet, les pluies tropicales arrosent abondamment les régions soudanaises et la traversée des wadis par plus d'un mètre d'eau pose de singuliers problèmes. Des véhicules haut sur roues et à deux ponts peuvent tout juste passer. Les Africains, eux, assurent le transport de leurs propres affaires sur leur tête. Et Dieu sait combien est grande la variété des koumanes qu'ils transportent. Quant aux jeeps, elles ont besoin d'un câble pour s'en sortir. Et encore, dans quel état? Mais cela est fréquent sur les routes africaines. Sur la piste d'Abéché, nous constatons que l'arrivée de la saison des pluies a réveillé la végétation. Les plantes à bulbes, grâce aux réserves emmagasinées dans leurs organes souterrains, démarrent les premières, comme ce Crinum pauciflorum, dont les grandes pièces pétaloïdes rappellent nos lys, ou ces étendues fleuries d'Amocaris tineana, d'un beau rose chatoyant. Abéché, capitale de l'Ouadaï, est une cité importante renommée pour ses tapis, objet d'une industrie artisanale. Sur un métier à tisser rudimentaire, les femmes, avec une technique assurée acquise depuis plusieurs générations, fabriquent une à une de longues bandes étroites qu'elles rassembleront par la suite. Les tapis d'Abéché sont vendus dans tout le Tchad et même exportés à l'étranger. Le pilage du mil n'en demeure pas moins une des activités principales de toute ménagère. C'est que la région de l'Ouadaï est une région de grosse production de mil pénicillaire, base de l'alimentation des autochtones. Km vers le nord nous amène à Fada, petit poste assurant l'administration du district de l'Enedi, situé dans la zone nord-sahélienne. Les liaisons avec ce centre sont rares et précaires. Un seul avion par mois, à tel point qu'il faut mobiliser toute la population pour désembourber l'avion qui finalement s'envolera pour l'Argeau emportant le courrier. Il faudra attendre un mois son retour. Fada sera le point de départ et le point de retour de notre périple à dos de chameau dans l'Enédie. Une tradition de Fada veut que hommes et animaux vivent en harmonie dans le poste. Ce pélican, arrivé par ses propres moyens dans ce coin perdu, a trouvé auprès d'un petit âne un compagnon de fortune. La Dax, à cornes spiralées, fait bon ménage avec l'Oryx, aux cornes longues et effilées. Organiser une mission dans le massif montagneux de l'Enédie nécessite un certain nombre de préparatifs. Le chameau est l'unique moyen de transport utilisable. Cet animal est magnifiquement adapté à ces régions. Pour lui, le problème de nourriture est facilement résolu. Regardez-le choisir les feuilles tendres de cet acacia épineux. Un vrai gourmet. On distingue le chameau de bât, véritable véhicule de transport, et le chameau de selle, qui reçoit un dressage spécial. Pour monter celui-ci, il convient d'abord de placer à cheval sur la bosse une selle ou bassour, laquelle est flanquée de chaque côté de grands sacs en cuir ou malamala. Enfin, par-dessus, sont disposées une ou plusieurs épaisseurs de couverture selon la sensibilité du client, la dernière étant une sorte de tapis ou kélim. Voici venue l'heure du départ de notre petite caravane qui pendant 3 mois va parcourir, livrée à elle-même, le massif peu connu de l'Enédie. Elle est placée sous la direction du meilleur guide de la région, surnommé le Père Mouflon, qui cumule les fonctions de guide, de pisteur et de marabout. Il sait lire et interpréter sur le sol la moindre trace. Le massif de l'Enédie est intéressé par des pluies régulières d'origine tropicale qui arrosent le pays de juillet à septembre. Sur le massif, essentiellement rocheux, le coefficient de ruissellement est élevé et une bonne partie de l'eau tombée est drainée par d'importants wadis. L'eau se charge de particules limoneuses et prend une couleur café au lait. Elle provient de la partie supérieure du massif, environ 1000 mètres d'altitude, d'où elle se précipite vers la zone piémont en torrents impétueux ou en cascades impressionnantes, fort surprenant pour le voyageur se figurant être en région semi-désertique. Sur les plateaux, quelques jours après les premières pluies, l'herbe sort du sable comme par enchantement et constitue de verts pâturages appréciés des vaches zébues. Le pays change complètement d'aspect. Dans l'herbe apparaissent de véritables champignons avec un pied et un chapeau supportant des lamelles. Leur durée de vie est très éphémère puisque, nés avec la fraîcheur de la fin des nuits, ils sont en quelques heures cuits par le soleil. D'autres champignons, plus coriaces et plus durables, viennent sur le bois mort. Ce sont des lignicoles, analogues à nos polypores. Mais l'un des spectacles les plus surprenants est sans conteste ces mares, qui abondent dans le centre du massif et dont certaines se couvrent de nénuphars, de l'espèce croissant dans les zones inondées du Sénégal, de la Gambie, du Niger, et non encore signalées à des latitudes aussi septentrionales. Les mares attirent de nombreux oiseaux tropicaux, parmi lesquels l'ibis sacré est un hôte fidèle. Il fouille inlassablement de ses mandibules la surface de la mare à la recherche d'une microfaune parmi laquelle se trouvent de nombreux petits crustacés. La spatule d'Afrique arrive des grands fleuves et des grands lacs équatoriaux pour visiter ces mares. Elle triture la vase en tournant la tête alternativement à droite et à gauche. La présence de la spatule blanche d'Afrique dans les mares au milieu des sables a de quoi surprendre, mais c'est un oiseau de passage qui, les mares asséchées, retournera au bord des grands fleuves tropicaux. Ces charmants oiseaux du genre passereau ne sont pas migrateurs. On les trouve en permanence au bord de ces mares qu'ils égaient de leurs chants. La tourterelle à cravate noire fréquente également tous ces points d'eau. Sur le sable mouillé du pourtour des mares et en certaines places bien définies, des grappes de papillons de la famille des pierrides s'agglutinent en colonies nombreuses et viennent aspirer avidement l'humidité aux heures chaudes de la journée. Un phénomène attractif, dû au battement d'ailes, comme on a pu le prouver par expérience récente, est à la base de ces agglomérations étranges des lépidoptères. On y reconnaît différentes espèces de Colotis, Belenois, Prekis, Eurema. Profitant de l'humidité, une végétation fleurie s'est développée sur le bord des mares, parmi laquelle l'acacia est le plus représentatif. Il donne des fleurs en boules d'un jaune d'or, sur lesquelles viennent butiner des papillons, Colotis et Festia, et des cétoines, Pacnoda interrupta. Un peu plus en altitude, dans des sites d'une grande beauté et d'accès difficile, l'eau est retenue dans de grandes citernes naturelles ou gueltas. Certaines atteignent plusieurs mètres de profondeur et ne s'assèchent jamais, même s'il reste sans pleuvoir pendant plusieurs années. Elles abritent toute une faune aquatique, dont de nombreux coléoptères, hydrophiles et dineutes. Ce sont les plateaux rocheux qui constituent le véritable visage de l'Énédie. Ceux-ci s'étendent sur de vastes surfaces, tantôt décapées par l'érosion, tantôt au contraire déchiquetées par celle-ci. Les faciès ruiniformes typiques de l'altération des grès sont les plus fréquents. Le passage d'un plateau à l'autre, d'altitudes différentes, est une opération difficile qui se fait suivant des itinéraires obligatoires connus des guides. Les pistes prennent parfois de telles déclivités que le passage des chameaux devient une opération acrobatique. Surtout quand ceux-ci sont lourdement chargés. Le ciel des plateaux culminants de l'Énédie demeure le domaine incontesté des grands vautours de Nubie qui se partagent la surveillance des hauts sommets. Dès que l'un d'entre eux a repéré un cadavre, les autres, prévenus par un sens mystérieux, accourent de tous les points de l'horizon. La carcasse est méthodiquement dépecée. Chacun s'efforce de tirer à soi le meilleur morceau. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Au vautour de Nubie, dont l'envergure dépasse 2 mètres, se mêlent quelques gypses de rupelle reconnaissables aux vermiculures blanches des ailes. Quelques heures suffisent pour nettoyer le cadavre le plus important. Et encore, il n'y en aura pas pour tout le monde. En Afrique, les cadavres ne risquent pas de se décomposer bien longtemps sur le sol. De place en place, des ouèdes ont creusé de larges vallées dont le milieu très différent fait contraste avec l'austérité des plateaux. Leurs rives sont surtout jalonnées d'un palmier à feuilles en éventail dont les fruits sont consommables, le palmier d'Oumfourchu. Mais on y trouve également d'autres espèces d'arbres dans lesquels se réfugient de nombreux oiseaux, parmi lesquels la tourterelle rose et grise, reconnaissable à son collier noir. Et le petit calao à bec rouge, dont les mandibules lui servent à briser les fruits les plus durs. Les wadis, par la densité de leur végétation, attirent les nomades qui y font paître leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Transportant avec eux leurs cases, faites de nattes assemblées, ceux-ci se contentent d'une nourriture frugale, un peu de lait et quelques dattes. Tandis que les chèvres se voient octroyer pour fourrage les feuilles d'acacia détachées de leurs branches à la Gaule. Les troncs des arbres abattus par les tornades ne tardent pas à être dévorés par des larves de différentes sortes. La plus grosse et la plus spectaculaire est celle de l'Acanthophorus arabicus, un des plus gros longicornes sahariens. La larve, énorme vert blanc, met plusieurs années, 4 vraisemblablement, pour donner un adulte muni de grosses mandibules, d'un corselet épineux et de taches pubescentes blanches sur les élytres. Aux dépens des acacias, vivent aussi de splendides coléoptères parés de vives couleurs métalliques appartenant au groupe des buprestes. Ce sont le Julodis caiodi, dont les élytres sont recouvertes d'une couleur prune très délicate, et le Steraspis speciosa, d'un vert mordoré. Après les plateaux centraux, la caravane gagne la lisière nord du massif, beaucoup moins arrosée. D'ailleurs, nous abordons la saison sèche. Le paysage change rapidement d'aspect, devient plus désolé. La végétation se raréfie, ce ne sont plus que pailles jaunies. Petit à petit, nous avons traversé la bordure sahélienne, la limite sud du Sahara est maintenant toute proche, les premiers sables ne tardent pas à apparaître. La faune change, les reptiles et arachnides, bien adaptés au milieu sec, deviennent prépondérants, le classique margouya. L'agame, supportant les plus fortes chaleurs. Le caméléon, aux yeux montés sur des roulements à billes. Le fouette-queue, le plus gros de la série. Fort impressionnant, mais en réalité débonnaire et inoffensif, strictement végétarien, est capable de rester très longtemps sans absorber de nourriture, faculté très utile en région désertique. Le scorpion, toujours présent, et toujours prêt à enfoncer son dard épineux et à infliger une piqûre quelquefois mortelle. Un animal file à toute vitesse, c'est une blatte. Ici, une araignée argentée. Cette autre, pourtant fort impressionnante, n'est pas venimeuse, c'est une galéode. Nous sommes à présent en octobre. Le soleil devient de plus en plus implacable et la saison des pluies n'est plus qu'un souvenir. 8 à 9 mois vont maintenant s'écouler pendant lesquels il ne tombera plus une goutte d'eau. Les nomades ne cesseront alors de mener une lutte permanente pour essayer de se procurer le précieux liquide. Les trous d'eau sont presque asséchés. On ne peut plus y récupérer qu'une eau boueuse dans laquelle il y aura autant à boire qu'à manger. Puis il faudra creuser et pendant des heures et des heures attendre que l'eau veuille bien suinter du sable. Les nomades de l'Enedi utilisent des peaux de chèvre ou gerba comme récipient pour transporter l'eau. l'étanchéité n'est pas toujours parfaite, mais elle conserve à l'eau par évaporation une certaine fraîcheur. Pour libérer les nomades de la servitude de l'eau, quelques puits en dur ont été construits. Malheureusement, ces ouvrages sont coûteux et les emplacements favorables pour les installer sont rares. Mais on jugera de leur importance en pensant que les quelques puits permanents fonctionnent pendant la saison sèche presque 24 heures sur 24 et qu'ils préservent de la soif des milliers d'hommes et d'animaux. Leur soif étanchée, les bêtes, sous la conduite du pasteur, repartiront dans la solitude de l'Enedi, à la recherche d'un maigre pâturage, pour revenir obligatoirement le lendemain au point d'eau. Après une randonnée de 3 mois à travers l'Enedi, notre modeste caravane regagne Fada, qu'elle retrouve envahie par les sauterelles. C'est là qu'elle laissera les chameaux devenus inutiles et reprendra les voitures qui la ramèneront à Fort Lamy, point de départ et terme de la mission.